Pendant les premiers jours de son installation à l'hôtel de Cluny, Lucien, comme tout néophyte, eut des allures timides et régulières. Après la triste épreuve de la vie élégante qui venait d'absorber ses capitaux, il se jeta dans le travail, avec cette première ardeur que dissipent si vite les difficultés et les amusements que Paris offre à toutes les existences, aux plus luxueuses comme aux plus pauvres, et qui, pour être dompté, exige la sauvage énergie du vrai talent ou le sombre vouloir de l'ambition. Lucien tombait chez Flicoteau vers 4h30, après avoir remarqué l'avantage d'y arriver les premiers. Les mets étaient alors plus variés, celui qu'on préférait s'y trouvait encore. Comme tous les esprits poétiques, il avait affectionné une place et son choix annonçait assez de discernement. Dès le premier jour de son entrée chez Flicoteau, il avait distingué, près du comptoir, une table où les physionomies des dîneurs, autant que leurs discours saisis à la volée, lui donnèrent des compagnons littéraires. D'ailleurs, une sorte d'instinct lui fit deviner qu'en se plaçant près du comptoir, il pourrait parlementer avec les maîtres du restaurant. À la longue, la connaissance s'établirait, et au jour des détresses financières, il obtiendrait sans doute un crédit nécessaire. Il s'était donc assis à une petite table carrée à côté du comptoir, où il ne vit que deux couverts ornés de deux serviettes blanches sans coulant et dessinés probablement aux allants et venants. Le vis-à-vis de Lucien était un maigre et pâle jeune homme, vraisemblablement aussi pauvre que lui, dont le beau visage déjà flétri annonçait que les espérances envolées avaient fatigué son front et laissé dans son âme des sillons où les graines ensemencées ne germaient point. Lucien se sentit poussé vers l'inconnu par ses vestiges de poésie et par un irrésistible élan de sympathie. Ce jeune homme, le premier avec lequel le poète d'Angoulême put échanger quelques paroles au bout d'une semaine de petits soins, de paroles et d'observations échangées, se nommait Étienne Lousteau. Comme Lucien, Étienne avait quitté sa province, une ville du Berry, depuis 2 ans. Son geste animé, son regard brillant, sa parole brève par moments, trahissaient une amère connaissance de la vie littéraire. Étienne était venu de Sancerre, sa tragédie en poche, attiré par ce qui poignait Lucien, la gloire, le pouvoir et l'argent. Ce jeune homme, qui dîna d'abord quelques jours de suite, ne se montra bientôt plus que de loin en loin. Après 5 ou 6 jours d'absence, en retrouvant une fois son poète, Lucien espérait le revoir le lendemain. Mais le lendemain, la place était prise par un inconnu. Quand, entre gens, on s'est vu la veille, le feu de la conversation d'hier se reflète sur celle d'aujourd'hui. Mais ces intervalles obligeaient Lucien à rompre chaque fois la glace et retardaient d'autant une intimité qui, durant les premières semaines, fit peu de progrès. Après avoir interrogé la dame du comptoir, Lucien apprit que son ami futur était rédacteur d'un petit journal où il faisait des articles sur les livres nouveaux et rendait compte des pièces jouées à l'ambigu comique, à la gaieté, au panorama dramatique. Ce jeune homme devint tout à coup un personnage aux yeux de Lucien, qui compta bien engager la conversation avec lui d'une manière un peu plus intime, et faire quelques sacrifices pour obtenir une amitié si nécessaire à un débutant. Le journaliste resta 15 jours absent. Lucien ne savait pas encore qu'Étienne ne dînait chez Flicoteau que quand il était sans argent, ce qui lui donnait cet air sombre et désenchanté. Cette froideur à laquelle Lucien opposait de flatteurs sourires et de douces paroles. Néanmoins, cette liaison exigeait de mûres réflexions, car le journaliste obscur paraissait mener une vie coûteuse, mélangé de petits verres, de tasses de café, de bols de punch, de spectacles et de soupers. Or, pendant les premiers jours de son installation dans le quartier, la conduite de Lucien fut celle d'un pauvre enfant étourdi par sa première expérience de la vie parisienne. Aussi, après avoir étudié le prix des consommations et supposé sa bourse, Lucien n'osa-t-il pas prendre les allures d'Étienne, en craignant de recommencer les bévues dont il se reportait encore. Toujours sous le joug des religions de la province, ces 2 anges gardiens, Ège et David, se dressaient à la moindre pensée mauvaise, et lui rappelaient les espérances mises en lui, le bonheur dont il était comptable à sa vieille mère, toutes les promesses de son génie. Il passait ses matinées à la bibliothèque Sainte-Geneviève à étudier l'histoire. Ses premières recherches lui avaient fait apercevoir d'effroyables erreurs dans son roman de l'archer de Charles IX. La bibliothèque fermée, il venait dans sa chambre, humide et froide, corriger son ouvrage, y recoudre, y supprimer les chapitres entiers. Après avoir dîné chez Flicoteau, il descendait au passage du commerce, lisait au cabinet littéraire de Blosse les œuvres de la littérature contemporaine, les journaux, les recueils périodiques, les livres de poésie pour se mettre au courant du mouvement de l'intelligence. Et regagner son misérable hôtel vers minuit, sans avoir usé de bois ni de lumière. Ses lectures changeaient si énormément ses idées, qu'il revit son recueil de sonnets sur les fleurs, ses chères marguerites, et les retravailla si bien qu'il n'y eut pas 100 vers de conservés. Ainsi, d'abord, Lucien mena la vie innocente et pure des pauvres enfants de la province qui trouvent du luxe chez Flicoteaux en le comparant à l'ordinaire de la maison paternelle, qui se recrée par de lentes promenades sous les allées du Luxembourg en y regardant les jolies femmes d'un œil oblique et le cœur gros de sang, qui ne sortent pas du quartier et s'adonnent saintement au travail en songeant à leur avenir. Mais Lucien, né poète, soumis bientôt à d'immenses désirs, se trouva sans force contre les séductions des affiches de spectacle. Le théâtre français, le vaudeville, les variétés, l'opéra comique où il allait au parterre, lui enlevèrent une 60aine de francs. Quel étudiant pouvait résister au bonheur de voir Talma dans les rôles qu'il a illustrés? Le théâtre, ce premier amour de tous les esprits poétiques, fascina Lucien. Les acteurs et les actrices lui semblaient des personnages imposants. Il ne croyait pas à la possibilité de franchir la rampe et de le voir familièrement. Ces auteurs de ses plaisirs étaient pour lui des êtres merveilleux que les journaux traitaient comme les grands intérêts de l'État. Être auteur dramatique, se faire jouer, quel rêve caressé! Ce rêve, quelques audacieux comme Casimir de la Vigne le réalisaient. Ces fréquentes pensées, ces moments de croyance en soi suivis de désespoir, agitèrent Lucien et le maintinrent dans la sainte voie du travail et de l'économie, malgré les grondements sourds de plus d'un fanatique désir. Par excès de sagesse, il se défendit de pénétrer dans le palais royal, ce lieu de perdition où, pendant une seule journée, il avait dépensé 50 francs chez Véry et près de 500 francs en habits. Aussi, quand il cédait à la tentation de voir Fleury, Talma, les deux Baptistes ou Michaud, n'allait-il pas plus loin que l'obscure galerie où l'on faisait queue dès 5h30 et où les retardataires étaient obligés d'acheter pour 10 sous une place auprès du bureau? Souvent, après être resté là pendant 2 heures, ces mots « Il n'y a plus de billets !» retentissaient à l'oreille de plus d'un étudiant désappointé. Après le spectacle, Lucien revenait les yeux baissés, ne regardant point dans les rues alors meublées de séductions vivantes. Peut-être lui arriva-t-il quelques-unes de ces aventures d'une excessive simplicité, mais qui prennent une place immense dans les jeunes imaginations timorées. Effrayé de la baisse de ses capitaux, un jour où il compta ses écus, Lucien eut des sueurs froides, en songeant à la nécessité de s'enquérir d'un libraire et de chercher quelques travaux payés. Le jeune journaliste, dont il s'était fait à lui seul un ami, ne venait plus chez Flicoteaux. Lucien attendait un hasard qui ne se présentait pas. À Paris, il n'y a de hasard que pour les gens extrêmement répandus. Le nombre des relations y augmente les chances de succès en tout genre, et le hasard aussi est du côté des gros bataillons. En homme chez qui la prévoyance des gens de province subsistait encore, Lucien ne voulut pas arriver au moment où il n'aurait plus que quelques écus. Il résolut d'affronter les libraires.